Jésus nous a expliqué comment la parole de Dieu, la grâce de Dieu est semée dans nos cœurs pour qu'elle fructifie. Mais nous avons un certain travail à faire qui dépend aussi de nous. Car nous avons besoin d'avoir des racines profondes et solides dans la foi et l'attachement personnel à Dieu. Et nous avons besoin de nettoyer le terrain, chasser les ronces du péché qui empêche le fruit de la grâce de Dieu de se déployer en nous. Nous souvenons toujours que nous ne sommes pas, comme on le dit parfois, une religion du livre. Nous sommes la religion d'une parole très particulière. Nous sommes la religion d'une parole qui est le Verbe de Dieu, le Christ, le Fils unique du Père. Ce n'est pas des mots ni des textes qui sont semés en nous pour fructifier. Ce ne sont pas des idées. C'est la personne même du Christ qui, par son incarnation, vient s'implanter dans notre propre humanité et qui veut lui-même en personne habiter chacun de nos cœurs, transformer chacune de nos existences. Il est lui-même. C'est sa personne, le Verbe du Père, l'expression personnelle, vivante, unique, de l'amour, de la bonté, de la miséricorde du Père. Et aujourd'hui, dans ces moins longues paraboles du royaume, il semble que nous ayons une perspective sur qu'est-ce qu'est le fruit final de cette fructification du Verbe de Dieu, du Christ en nous. Et nous avons tous certainement à continuer de convertir notre cœur à ce à quoi Jésus nous appelle. Et d'abord, de quel royaume parle-t-il? Qu'est-ce que le royaume? À cause de la façon dont nous-mêmes nous sommes construits en pensant à partir d'images et de représentations, nous avons toujours un peu de peine à nous départir d'une certaine représentation imagée du royaume qui serait comme un lieu où il y aurait peut-être ceci ou cela, ou peut-être pas. Il nous faut quitter le domaine des images. Jésus, tantôt, parle du royaume comme une réalité à venir. Par exemple, quand il nous dit qu'il y en a qui sont venus et qui donc renoncent à un bien voulu par Dieu dès l'origine en vue du royaume. Donc le royaume n'est pas encore là, c'est ce que nous avons à désirer. C'est ce à quoi nous avons à nous convertir, pas pour maintenant, mais pour le temps d'après. D'autres fois, il nous dit qu'il est déjà là. En Saint-Luc, il nous dit « Le royaume est au milieu de vous. » Et on peut même traduire, certaines versions le font, « Le royaume est au-dedans de vous. » Il est au milieu de nous. Il nous rassemble, mais il est aussi à l'intérieur de nous-mêmes. Ce à quoi nous avons à nous convertir, ce que Jésus prêche, c'est une réalité qui dépasse notre imagination. Il est inutile de chercher à se représenter. On ne peut que la déformer. Qui est à venir, mais qui est au milieu de nous et qui commence à l'intérieur de nous-mêmes. Qu'est-ce qu'un royaume? Le mot lui-même nous suggère que c'est une certaine assemblée d'un certain nombre de personnes, de citoyens, unis dans une même société, une même communion, gouvernés par un roi et unis pour un même bien. C'est un terme historique ou politique, un type de régime politique. À travers cela, qu'est-ce que nous avons à comprendre? Qui règne dans ce royaume éternel? Bien sûr, c'est Dieu. Par quoi sommes-nous unis? Par son amour. Quel est ce but? Quel est le but du royaume de Dieu? Pas d'autre que précisément être unis dans l'amour de Dieu. Dans l'amour éternel, définitif de chacun de nous à Dieu en personne, et tous ensemble, ne formant plus qu'une seule réalité vivante, une seule communion éternelle, en communion à la bonté de Dieu. Dans ce royaume, Dieu règne, c'est-à-dire peut déployer, partager pleinement sa vie, qui est son amour, sa vérité, son bien. Le royaume de Dieu, c'est ceux qui sont assemblés par Dieu lui-même, qui y trouvent leur bien et leur joie éternelle, qui ne pourront plus perdre et qui feront leur joie éternelle en communion ensemble à la joie de Dieu, heureux de nous faire participer, chacun de nous et tous ensemble, à sa propre béatitude. Le royaume de Dieu, c'est Dieu qui répand sa propre vie en nous et nous unit en elle. C'est donc non pas un lieu, mais un état de vie parfait, définitif, éternel. C'est la sainteté éternelle et définitive. C'est la béatitude et la joie éternelle, sans mélange. Jésus nous rappelle que là est le but de notre vie. C'est ce à quoi il nous appelle. C'est ce qu'il est venu, c'est ce qu'il est venu annoncer, proclamer de la part de son Père et commencer d'instaurer. Et dans ces paraboles, Jésus nous dit qu'à la fois nous avons à quitter des biens pour acheter, c'est le mot de la traduction, acheter ce qui est sans prix, et qu'à la fin, il y a un tri. Autrement dit, il y a quelque chose de donné par Dieu, et il y a quelque chose qui dépend de notre libre choix, de notre volonté personnelle. Nous avons donc à, avec l'écriture de ce matin, essayer de distinguer ce qui dépend de Dieu et ce qui dépend de nous, pour mieux réaliser ce à quoi nous sommes appelés. Dans la lettre, dans ce merveilleux passage du chapitre 8 de la lettre aux Romains, saint Paul nous rappelle cette réalité extraordinaire que nous oublions beaucoup trop souvent. De toute éternité, Dieu nous connaît. Il nous crée en nous connaissant de toute éternité, à l'intérieur de lui-même. Il nous destine à son royaume. Il nous y appelle, chacun de nous. Et c'est lui qui nous justifie. C'est lui qui nous rend justes. C'est lui qui nous tire de la misère de notre orgueil, de notre péché, de notre égoïsme. C'est lui qui agit en nous pour nous conformer à ce qu'il veut nous donner. Et nous sommes conformés, configurés, nous dit Paul, à l'image du Fils, pour que ce Fils soit le premier-né d'une multitude de frères. Autrement dit, Paul nous montre comment de toute éternité Dieu nous connaît, nous crée, nous appelle, nous donne tous les biens pour que nous soyons appelés au royaume, non pas tout seul par nous-mêmes, mais en étant incorporés, greffés dans la personne même de son Fils. C'est en Jésus et en l'autre, et pas tout seul, que nous pouvons entrer dans ce royaume ou recevoir ce royaume. Ceux qu'il avait destinés d'avance, il les a appelés. Ceux qu'il a appelés, il en a fait des justes. C'est lui qui connaît, appelle, justifie. Et ceux qu'il a rendus justes, il leur a donné sa gloire. C'est Dieu qui fait tout cela en nous et pour nous. Mais, dans les paraboles que nous entendons, le royaume est comparable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui le découvre doit vendre tout ce qu'il possède et acheter le champ pour avoir non pas le champ lui-même, mais le trésor caché dedans. Ou une perle, c'est peu, mais de grande valeur. Le négociant vend tout ce qu'il possède, tout, pour acheter la perle. Et dans la troisième image, il y a le tri à la fin. Le royaume de Dieu, frères et sœurs, est gratuit. Il est le don gratuit de Dieu, puisqu'il est Dieu qui nous partage, qui nous offre sa propre vie, qui est sans prix. Nous n'avons pas les moyens. Nous n'avons pas le compte bancaire nécessaire. Ça n'existe pas, personne ne l'a. Néanmoins, nous avons à acheter quelque chose. Qu'est-ce à dire? Les paraboles nous disent, vendre ce que nous possédons, quitter ce que nous croyons avoir, faire un choix entre posséder ici-bas, nous asseoir ici-bas, ne chercher que le bien d'ici-bas, ou désirer ce royaume gratuit, mais que nous avons à acheter, si l'on ose dire, puisqu'il est gratuit, par un choix libre de notre amour. C'est peut-être ce que vous suggère saint Paul, avant d'avoir décrit toute l'action de Dieu pour nous, si j'ose dire, de l'éternité à l'éternité, de l'éternité où il nous connaît et nous crée jusqu'à l'éternité où il nous glorifie. Paul commence par dire, nous le savons, quand les hommes aiment Dieu, lui-même fait tout contribuer à leur bien. Quand les hommes aiment Dieu, c'est cela, l'achat que nous avons à faire. C'est d'aimer Dieu lui-même, pour l'amour de Dieu, pour l'amour de son royaume, pour l'amour de nos frères. Ce n'est pas un achat, bien sûr, mais c'est un choix. Et c'est un choix qui peut coûter humainement. C'est le choix qu'ont fait les saints, nous le voyons dans leur vie. Ils ont combattu, ils ont lutté, ils ont vécu des arrachements parfois terribles, rudes, à l'intérieur de leur cœur et dans leurs actes. Mais ils ont aimé plutôt Dieu que tout bien humain. Alors, frères et sœurs, pour finir, nous pouvons faire nôtre cette merveilleuse prière du roi Salomon dans le livre des Rois. Cette prière bien connue. Nous serions peut-être un peu embêtés. Moi, je ne sais pas comment je ferai. Si Dieu me disait, Dieu nous disait, demande-moi ce que je dois te donner. Je ne sais pas si instinctivement j'aurais les bons réflexes de demander la chose la plus importante, enfin, son royaume et la sainteté et la vie éternelle, pour moi et pour tous mes frères, pour tous ceux auxquels je suis lié. Mais Salomon fait cette prière remarquable. Que Dieu remarque lui-même, tu ne m'as pas demandé de bon jour, ni la richesse, c'est un roi qui gouverne, ni la mort de tes ennemis, mais tu as demandé le discernement, l'art d'être attentif et de gouverner. Un cœur intelligent et sage. Un cœur qui est à l'écoute de Dieu. Attentif. Et à partir de cette écoute, Dieu peut gouverner. ici-bas, et qui devrait se souvenir qu'il y a un autre royaume qui nous jugera tous. Et faisant cette prière les uns pour les autres et pour nous-mêmes, donne-moi, Seigneur, d'être attentif à ta grâce en moi. Donne-moi de savoir y répondre. Donne-moi cette sagesse discernée dans ma vie et dans ce que je fais pour les autres, que j'essaye de faire pour les autres ce qui est juste, le bien du mal. Faisons cette prière des uns pour les autres et demandons à Dieu de faire grandir en nous la soif de son royaume qui vient, mais qui est déjà au-dedans de nous, dans la personne du Christ ressuscité.